Alexis, la semaine dernière, on a amorcé un tour d'horizon des équipes de la Ligue nationale et de ce qu'on a fait au cours de l'entre-saison. Tu as passé à travers presque toute la section Pacifique. Ce matin, on termine la section Pacifique avec, je pense, et selon ton avis aussi, je pense, les deux meilleures équipes de cette section-là en vue de la prochaine saison, c'est-à-dire les Kings de Los Angeles et les Golden Knights de Vegas, qui devraient, en tout cas, qui ont de bonnes chances de se battre là, pour les deux, trois premières positions de la section.
Oui, ben ça a été les deux de meilleures équipes lors de la dernière saison dans la division Pacifique, respectivement. On a terminé deuxième du côté des Kings et premier du côté des Golden Knights. Et bon, on y reviendra au cours de ce segment, mais j'ai justement l'impression que ça risque d'être les positions qu'on va revoir lors de la saison prochaine, c'est-à-dire les Kings encore qui devraient terminer au deuxième rang et les Golden Knights au premier rang. On va commencer avec les Kings de Los Angeles ce matin.
Ils sont allés chercher plusieurs vétérans au cours de l'entre-saison. Je pense que ça a été, en tout cas, ça semblait être un mot d'ordre de l'organisation parce qu'on a ajouté des années d'expérience et des matchs d'expérience dans l'équipe.
Énormément. Et justement, je crois qu'on avait besoin d'ajouter un peu de profondeur au niveau de l'équipe, que ce soit en défensive ou en attaque. On le sait, en série contre les Oilers, ça n'a pas nécessairement été facile. On a accordé beaucoup de buts.
Et même, ça fait, je pense, que ça fait 3 ans de suite là, qu'ils s'affrontent, ces deux équipes-là.
Ça fait 4 ans de suite, en fait, qu'on se fait éliminer par les Oilers au premier tour. Et il faut remonter à 2014 pour voir les Kings franchir le premier tour. Et 2014, justement, c'est la fameuse année où ils avaient remporté la Coupe Stanley face aux Rangers de New York. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Kings franchir un premier tour.
L'année où ils ont gagné et auraient dû affronter le Canadien en finale cette année-là.
Ouais, ouais. Pas besoin de... En tout cas... C'était pas nécessaire.
Je te laisse poursuivre.
Mais non, donc, on a beau parler des Maple Leafs qui avaient de la difficulté avec le premier tour, mais c'est un peu le cas des Kings aussi dernièrement. Donc clairement, on a envie de changer ça et on a pris les décisions pour cet été en ajoutant beaucoup de profondeur. On pense à des gars comme Yoel Armia d'ailleurs qui a quitté le Canadien et qui s'est joint aux Kings pour un contrat de 2 ans, 2,5 millions par saison. Lui qui est un spécialiste du désavantage numérique avec le Canadien, risque d'avoir un rôle un peu similaire du côté des Kings. Et le bon vieux Corey Perry également, qui a quitté les Oilers d'Edmonton pour se joindre à l'organisation des Kings. J'ai malheureusement l'impression pour lui que sa séquence de présence en finale de la Coupe Stanley va venir à terme cette saison.
Tu vois pas les Kings poursuivre la tradition Corey Perry?
Non, malheureusement non.
Parce que Perry, ça fait, je pense, depuis 2020 avec Tampa. Il me semble que ça avait commencé cette séquence-là, mais ça fait 58 là, qu'il va en finale, je pense, et qu'il perd. Le fait, évidemment, avec le Canadien.
Du moins, si les Kings parviennent à se rendre en finale, on est assuré qu'ils perdent.
Ouais, c'est ça.
C'est officiel. Également aussi en défensive, on a signé des défenseurs à gros contrats. On parle de Cody Ceci qui a signé pour 4 ans, 4,5 millions. Même chose du côté de Brian Dumoulin. Lui, dans son cas, c'est 3 ans, 4 millions de dollars par saison. Donc, des défenseurs qu'on paie un peu cher, selon moi, pour jouer sur une troisième paire défensive, puisqu'on s'entend que le top 4 va être encore composé de Mikey Anderson, Yoel Edmondson du côté gauche et Drew Lowdy et Brent Clark du côté droit. Donc, ça fait une troisième paire assez cher payé, mais je crois qu'on voulait vraiment aller chercher cette profondeur qui nous manquait peut-être lors du dernier parcours en série.
Avec le plafond salarial qui augmente, j'ai l'impression aussi que notre appréciation de l'échelle salariale va changer dans les prochaines années, parce qu'il va y avoir un bond là, de presque 30 millions là, au cours des trois prochaines années.
Ça va être excessif, les augmentations. Donc, je pense que justement, certains DG se sont peut-être laissés aller ou vont se laisser aller
dans les prochaines...
C'est qu'on va se retrouver avec le même problème éventuellement où les DG et les joueurs vont se retrouver à côté le nouveau plafond salarial, parce que justement on va être tenté de laisser d'accorder des plus gros contrats un peu plus facilement. Donc le problème va revenir le même, c'est juste que là pour l'instant, eh bien ça va commencer à se diriger dans cette direction-là à partir des nouveaux contrats qu'on a vus cet été et à partir également de la saison prochaine. On a décidé aussi de renouveler le contrat d'André Kuzmenko pour une seule saison, 4,3 millions de dollars par année. Lui qui a quand même bien fait là, avec les Kings suite à son acquisition l'an passé. On le sait, lui qui s'est promené entre Calgary et Philadelphie avant de se retrouver avec les Kings, a quand même amassé 6 points en 6 matchs de série et en saison régulière avait joué 22 matchs avec les Kings, un total de 17 points. Donc, une belle signature également pour les Kings, pour un Kuzmenko qui risque de jouer des minutes importantes quand même sur un top 6. Et on a perdu quand même aussi des gros morceaux. Là. Surtout en défensive, on a perdu un Vladislav Gavrikov qui, lui, a signé le gros contrat avec les Rangers de New York. Jordan Spence, également un défenseur que moi j'aime bien, qui se retrouve du côté des Sénateurs d'Ottawa via transaction. On n'a pas payé très cher là, du côté des Sénateurs pour en faire son acquisition. Et d'autres joueurs un petit peu plus de profondeur, les joueurs de rôle qui ont quitté. On pense à Tanner Janot, David Riddick dans le filet, Caleb Jones et Trevor Lewis. Donc, quelques joueurs également qui ont quitté le bateau du côté des Kings.
Ça nous amène à quelques joueurs que tu veux surveiller comme tu le fais avec chacune des formations. Ouais. À commencer par Quentin Byfield qui a pris sa place dans cette équipe-là au cours des dernières années. Si en début de carrière, on n'était pas certain de vers où ça allait aller, là, il a pris son envol, Quentin Byfield.
Ouais, ben il s'est vraiment établi là, comme deuxième centre de cette formation-là. Il devrait être le successeur de Andrzej Kopitar lorsqu'il prendra sa retraite. Du moins, c'est ce qu'on espère du côté des Kings. On se rappelle Quentin Byfield qui était le deuxième choix au total de l'encan 2020. Il est rendu à 22 ans, donc on parle ici d'un attaquant de puissance. Son temps de jeu qui a augmenté quand même là, l'année passée aussi. On a passé de 2 minutes supplémentaires à son temps de glace de la saison précédente. Des statistiques qui se ressemblent toutefois au cours des deux dernières saisons. Là. 55 points en 2023-2024 et 54 points la saison dernière, 23 buts. Ça a été un petit peu plus difficile toutefois au cercle des mises au jeu pour Byfield avec seulement 44,1%. Je crois cette année là, qu'il se doit peut-être de passer à un niveau supérieur. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes joueurs à surveiller. J'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire. Est-ce que il va pouvoir élever sa production offensive d'un cran encore une fois? On le sait, lui, qu'il amorce sa deuxième année d'un contrat de 5 ans qu'il avait paraffé avec les Kings, qui lui rapporte 6,25 millions de dollars par saison. Donc, dans son cas, Quentin Byfield, lui, qui devrait jouer encore une fois, comme je le disais, sur un deuxième trio, flanqué de Kevin Fiala et Alex Laferrière, c'est du moins les projections qui sont faites par le site Daily Faceoff pour la prochaine saison. Donc, pour Byfield, bien, une autre saison qui s'en vient où on le surveillera de très près, puisqu'on le sait, les joueurs qui sont sélectionnés dans le top 3 des repêchages sont toujours surveillés de très près plusieurs années après leur sélection.
Rapidement sur Brent Clark avant qu'on enchaîne sur les Golden Knights.
Ben Brent Clark, écoute, c'est un défenseur qu'on attend qu'on attend depuis longtemps chez les Kings de Los Angeles, et il a finalement disputé une première saison complète l'an dernier. 78 matchs dans l'uniforme des Kings, a amassé 33 points. C'est le préféré d'ailleurs d'un certain Greg Langto avec qui on a parlé un petit peu plus tôt, donc je crois qu'il est bien content de voir l'évolution de ce défenseur qui a bien fait l'an passé, surtout qui a profité aussi de la blessure à Drew Doughty pour une bonne partie de la saison pour prendre justement plus de responsabilités au cours de la dernière année. Ça nous a permis d'avoir peut-être une meilleure évaluation également de Clark. Donc cette année, il devrait encore une fois jouer sur le top 4, peut-être sur la deuxième paire, puisque Drew Doughty risque de revoir ses minutes comme premier défenseur de l'équipe. Mais Brent Clark, juste pour en faire un petit résumé, c'est un défenseur qui se retrouve parmi les meilleurs, peu importe les niveaux où il a passé. On regarde en 2020, il a été nommé sur l'équipe des recrues de la Ligue canadienne de l'Ontario. En 2022, deuxième équipe d'étoiles de cette même ligue. En 2023, première équipe d'étoiles. Et par la suite, dans la Ligue américaine, en 2024, a été nommé sur l'équipe des recrues de la Ligue américaine et sur la deuxième équipe d'étoiles. Donc, un beau palmarès pour Brent Clark qui devrait disputer une deuxième saison complète avec les Kings.
On va enchaîner, Alexis, sur les Golden Knights qui, parce que le temps file, de leur côté, une grosse arrivée et un très gros départ. Moi, c'est un peu comme ça que j'évalue les Golden Knights, c'est-à-dire l'arrivée de Mitch Marner et Alex Pietrangelo, qui vraisemblablement ne rejouera probablement jamais au hockey.
Ouais, c'est un peu triste dans le cas d'Alex Pietrangelo, lui qui on le sait, ratera la prochaine saison. C'est une blessure à la hanche dans son cas, qui va nécessiter une reconstruction bilatérale du fémur et qui a donc aucune garantie de succès. Et lui-même, par la suite, s'est adressé aux médias, a mentionné qu'il doute vraiment là, s'il va pouvoir rejouer un jour. Donc, fort probablement une carrière terminée pour Alex Pietrangelo.
Lui qui restera un très grand défenseur des 10-15 dernières années dans le hockey.
Ouais, partout où il va avoir passé, que ce soit dans la Ligue nationale ou même au niveau international avec la formation canadienne. Également aussi mentionner des gars comme Nicholas Hag et Nicolas Roy qui ont quitté le bateau du côté des Golden Knights. Mais sans plus tarder, il faut parler de cette acquisition de Mitch Marner. C'est l'acquisition de l'été, en fait, dans toute la Ligue nationale de hockey. Ça a été un petit peu... a fait une transaction et signature immédiate par la suite. Là, on l'a transigé contre Nicolas Roy.
C'était pour pouvoir le signer pour 8 ans et non 7 ans sur le marché des joueurs autonomes.
Exactement. Donc, on lui a accordé un contrat de 8 ans, 12 millions de dollars par année. Donc, Mitch Marner qui se retrouve du côté de Vegas. Et encore une fois, les Golden Knights qui trouvent le moyen de frapper un coup de circuit comme ils le font depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Lui qui devrait jouer avec Jack Eichel sur le premier trio, ça risque de faire des grandes flamèches, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du côté de Vegas, si on regarde encore pour ce qui s'en vient cette saison, on se retrouve encore une fois, avec un alignement assez complet. Là, si on regarde les trios à l'attaque ainsi que les duos en défensive, on a beaucoup de profondeur. On a un duo de gardien de but également qui a bien fait la saison passée. On avait Ilya Samsonov qui était le gardien adjoint à Haddon Hill, lui qui a quitté par contre via les agents libres. On a re-signé Akir Ahmed, donc on devrait lui faire confiance comme deuxième gardien, qui a quand même pas mal fait là, pour les peu de matchs qu'il a disputés avec l'équipe l'an dernier. L'équipe qui avait atteint la barre des 50 victoires la saison dernière pour 110 points, qui s'est toutefois fait éliminer en deuxième ronde en 5 matchs face aux Oilers d'Edmonton. Toutefois, comme j'ai dit, je les prévois encore au premier rang de la division la saison prochaine.
C'est les attentes qu'on va avoir en ayant été chercher un Mitch Marner notamment. Et ouais. Ça me surprend pas que tu veuilles surveiller Mitch Marner cette année, mais je suis curieux de savoir pourquoi Pavel Dorofeyev est sur ton radar à surveiller cette année.
Ben, c'est que Pavel Dorofeyev, c'est un joueur un peu peut-être méconnu des amateurs de hockey ici au Québec, puisque les Golden Knights, on les voit que deux fois par année, si on regarde les matchs du Canadien de Montréal. Mais c'est un choix qui a été un choix tardif au repêchage de 2019, sorti au 79e rang au total. Il a 24 ans maintenant. C'est un attaquant de 6 pieds 1 et 194 livres. Ça a été sa première saison complète l'an dernier dans la Ligue nationale. Il a amassé 35 buts. Donc, une très belle première saison pour Dorofeyev. Un marqueur qui a un bon tir et qui sait bien se positionner sur la patinoire pour lorsqu'il est le moment de marquer des buts. Et justement, il devrait avoir encore une fois un rôle important cette saison si on regarde la production qu'il a eue l'année passée. Et 13 de ses 13 buts, en fait, et 17 points ont été sur l'avantage numérique. Donc, devrait être encore une fois un morceau important du jeu de puissance des Golden Knights. Et si on décide de le mettre à la gauche de Jack Eichel et de Mitch Marner, ben, qui sait, il pourrait peut-être frôler le plateau des 60 points, lui qui en a amassé 52 la saison dernière. Donc c'est pourquoi Pavel Dorofeyev est un de mes joueurs à surveiller, et définitivement, si vous avez des poules de hockey, ça pourrait être un très bon choix à faire avec un choix un petit peu plus tardif.
On se met en mode déjà poules de hockey tranquillement.
Pas le choix.
Ça arrive quand même plus vite qu'on pense.
Ben, on arrive au mois d'août bientôt, ouais. Donc ceux qui ont des pool keepers comme moi d'ailleurs, ça va être bientôt la période des transactions qui vont s'amorcer, donc ça peut être un joueur intéressant.
Alexis, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Ça complète la section Pacifique. Demain, je suppose qu'on amorcera la section centrale, je suppose.
Exact. Bon. Et je termine en te demandant si, finalement, après ce tour complet de la division Pacifique, est-ce que tu crois que les Ducks peuvent terminer au quatrième rang?
Moi, je pense que les trois premières positions, c'est les deux équipes qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire les Kings, les Golden Knights et les Oilers en troisième position. Exact. On verra comment ça se terminera, 1, 2 ou 3. Mais c'est vrai qu'il y a une ouverture après pour la quatrième place. Est-ce qu'un Calgary peut être l'équipe qui va aller chercher cette quatrième place-là? Vancouver, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Alors, tu as raison de dire que les Ducks ont une ouverture là, pour aller vers cette quatrième place. J'ai l'impression que les trois premières vont vraiment appartenir aux Kings, aux Golden Knights et aux Oilers.
Par la suite, c'est ouvert un peu plus.
Bon, ben, on se prend rendez-vous ensemble le 15 avril pour analyser tout ça au terme de la saison.